Bleu, RCFM. France
Bleu. Bonjour Christine Allouzi.
Bonjour Jean-Michel.
De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
De l'alimentation de nos enfants.
Ah !
C'est un sujet qui passionne. Hein.
Ah oui, 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 oui.
Toujours autant. Je l'ai annoncé hier, j'ai reçu bim, 80 questions dans la figure.
D'accord.
Donc on a de quoi traiter
ça vous
ce
a
matin
pas marqué,
encore. Non, ça va ?
Non, ça va.
Bon, ça va.
Pas trop d'échymose.
Allez, à demain,
allez, à
Jean-Michel.
Demain.
RCFM, Christine Allouzi, les experts.
Bienvenue dans Les Experts. Ce matin, on parle de l'alimentation de nos petits et un peu plus grands aussi, qui représente parfois un véritable casse-tête. On ne sait pas toujours si on fait bien, si on lui donne l'aliment qu'il faudrait, si c'est pas trop, si c'est assez. Autant de questions qu'on se pose, mais formidable, mon invité de ce matin, que vous commencez à bien connaître, puisque vous êtes nombreux et nombreuses à me le réclamer. C'est le professeur Patrick Tougnon, répondra à toutes vos questions. 04 95 32 22 22, ou bien sûr, vous continuez à m'envoyer tous vos messages sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM.
Les experts, 9h30, 10h30, Christine Allouzi.
Il y a des gens du voyage, il y a des gens qui voyagent, des gens qui restent et des gens de passage. Il y a des gens qui planent et ceux qui touchent le fond, des gens qui dorment et des gens dorment son. Il y a des gens divers et il y a des divergents, des gens qui espèrent et des gens d'Abidjan. Il y a des gens du nord, des gens du sud, des vies douces et des vies rudes. Et il y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et il y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Il y a des gens de la haute et il y a des gens d'en bas. Il y a des gentils, des gendarmes, des junkies et des scars. Des gens qui pleurent, des gens qui rient, des Teddy Riner et des Carla Bruni. Il y a des gens Valjean qui mangent leur peine. Oui, des vrais gens qui font de la peine. Des gens qui s'aiment et qui s'assemblent. Des gens différents qui nous ressemblent. Et il y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et il y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Il y a des gens du matin, des gens qui s'ennuient, des agents de mannequins. Il y a des gens qui saoulent et des gens soulageants. Des gens qui rêvent la vie des autres gens. Et il y a des gens changeants et il y a des gens stables. Des affligeants et des remarquables. Des gens de l'Est, des gens à l'Ouest. Des gens qui vont, d'autres qui restent. Et il y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et il y a des gens heureux de l'or. Il y a des indignés, des indigents, des déjantés, des commerçants. Il y a des gens simples, des gens seuls, des gens chanceux et des gens humbles. Il y a des amants, des dirigeants, des gens qui en bavent et des braves gens. Il y a des gens gays, des sergents. Et dans tout ça, et dans tout ça, nous deux.
Sur RCFM.
Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. On parle alimentation de nos enfants aujourd'hui, de nos petits-enfants aussi dans les experts. Vous pouvez nous appeler aussi hein, pour nous donner si vous avez des conseils, si vous avez des petits trucs pour faire manger des légumes à vos enfants. 04 95 32 22 22. On est là aussi pour échanger des bons conseils dans les experts. Et puis aussi, vous continuez bien sûr à m'envoyer vos messages sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM. Je suis en compagnie ce matin de notre expert et quel expert, le professeur Patrick Tougnon. Bonjour.
Bonjour Christine, bonjour à tous.
Professeur Patrick Funon, vous êtes pédiatre, chef du service de nutrition et gastro-entérologie pédiatrique à l'hôpital Trousseau à Paris. Et vous avez notamment écrit un livre que je conseille à tous les parents, réponse à toutes les questions que vous vous posez sur l'alimentation de votre enfant aux éditions Odile Jacob, en complément bien sûr des émissions sur RCFM. Alors on va rentrer vite dans le vif du sujet, professeur, parce que quand vous êtes à l'antenne, je reçois énormément de questions.
Alors,
première chose, sur le lait de vache. Donc ça, c'est votre dada. On entend beaucoup de choses sur le lait de vache. Est-il adapté aux 0-3 ans, nous demande Maëlle.
La réponse est non. On ne doit pas donner de lait de vache pur aux 0-3 ans. Les 0-3 ans et même au-delà ont besoin d'un lait de vache enrichi, c'est-à-dire de lait infantile, premier âge jusqu'à la diversification, deuxième âge entre 6 et 12 mois, puis un lait de croissance. Tous ces produits sont pour la plupart d'entre eux préparés à base de lait de vache, mais ils sont enrichis en plusieurs nutriments, notamment du fer, des acides gras essentiels, de la vitamine D. Et donc, aucun lait de mammifère, excepté bien sûr le lait humain, ne convient aux enfants de 0 à 3 ans, du moins le lait pur.
Voilà, donc surtout, on le rappellera jamais assez, mais vers des laits, si on l'allaite pas, vers des laits qui sont spéciaux, des laits de croissance. Hein.
Voilà. Laits de croissance, qui sont des laits dont l'intérêt principal est d'être enrichis en fer et de permettre d'assurer les besoins en fer après un an. C'est une recommandation de la Société française de pédiatrie.
Justement, je rebondis sur ce que vous dites sur l'apport en fer. Il arrive justement que les nourrissons, les nouveau-nés, soient carencés en fer si, par exemple, la maman a eu des carences en fer durant la grossesse?
Oui, lorsque la maman a été carencée en fer, la réserve en fer des tout petits nourrissons avant 6 mois se fait au cours du troisième trimestre de la grossesse. Donc si la maman est carencée en fer, par exemple parce qu'elle a beaucoup saigné ou parce qu'elle a eu beaucoup de grossesses rapprochées, les réserves en fer sont insuffisantes et s'il est allaité, parce que le lait de mère contient très peu de fer, il peut, vers 4-5 mois de vie, voire un peu avant, être carencé en fer. Donc il faut faire très très attention, parce que la carence en fer très tôt dans la vie donne des séquelles irréversibles au niveau cérébral.
Comment on s'en rend compte qu'un enfant a des carences en fer, justement, si on l'allaite?
Eh bien, c'est très très difficile, parce que lorsque les symptômes surviennent, une espèce de fatigue, une mauvaise croissance, voire une susceptibilité accrue aux infections, c'est presque déjà trop tard. Donc, vaut mieux le prévenir en assurant des besoins suffisants, donc en donnant soit du lait de mère, un allaitement et supplémentation après l'âge de 6 mois si l'enfant est toujours majoritairement allaité, ou bien de donner des laits infantiles, premier âge, deuxième âge et lait de croissance, qui, lorsque la consommation de lait infantile est suffisante, assure les besoins en fer des jeunes nourrissons et des jeunes enfants.
Mais c'est vrai que sur un bébé, se rendre compte de la fatigue, on s'en aperçoit peut-être, comme vous le disiez, sur les infections qu'il peut contracter, parce que c'est compliqué, quoi, quand même, de trouver. Puis surtout que quand on allait, on pense faire bien. Et pour le coup, il faudrait peut-être qu'ils prennent des compléments à partir de 6 mois, du coup.
Voilà, alors on fait très bien hein, quand on allaite. C'est très très bien d'allaiter, mais après 6 mois, il faut supplémenter les enfants en fer. C'est aussi une recommandation de la Société française de pédiatrie. Tous les enfants majoritairement ou exclusivement allaités au-delà de 6 mois doivent être supplémentés en fer. Et comme vous le dites très justement, c'est compliqué de voir une carence en fer chez le jeune enfant. Et donc, il vaut mieux les prévenir en donnant suffisamment de fer.
C'est une carence qui apparaît graduellement.
C'est le temps d'utiliser les réserves. On a des réserves en fer, les enfants ont des réserves en fer, et une fois que ces réserves sont épuisées, eh bien, il va devenir carencé. Au début, les carences n'ont pas de répercussions bien évidentes, notamment sur les globules rouges, c'est-à-dire l'apparition d'une anémie. Et lorsque l'anémie apparaît, c'est que l'enfant est carencé déjà depuis longtemps et qu'il a probablement mal fait fonctionner et mal développé son cerveau. Et ça, c'est extrêmement difficile à juger. Et d'ailleurs, il n'y a que des études scientifiques qui comparent les enfants qui sont supplémentés et qui reçoivent suffisamment de fer à ceux qui n'en reçoivent pas suffisamment, qui montrent des différences. C'est-à-dire que ce sont des complications sérieuses, mais qui ne se voient pas.
C'est des complications que vous rencontrez notamment chez les enfants qui sont véganes ou végétaliens ou végétariens. C'est des choses que vous voyez aussi?
Alors, les enfants qui suivent un régime végétalien très très jeune, la recommandation, on l'a déjà dit à cette antenne, c'est de donner des préparations infantiles à base de riz, qui, elles, sont des préparations infantiles classiques, enrichies en fer, et qui empêche la survenue d'une carence en fer. Lorsque, malheureusement, certains enfants sont alimentés avec des jus végétaux, des jus d'amandes, des jus noisettes, des jus d'épeautre, ceux-là vont inéluctablement vers des carences majeures en fer, en calcium, en protéines, en vitamine B12, etc., etc., avec cette fois des séquelles à vie, voire la mort.
Oui, donc il faut faire vraiment très attention. Donc, une carence grave en fer, ça peut ralentir le développement intellectuel de l'enfant, affaiblir son système immunitaire, ralentir sa croissance, son développement. Voilà, c'est un petit peu les choses que peuvent causer justement ces anémies en fer. Une autre question de Marie qui nous dit « J'allaite mon fils et il pleure beaucoup, je suis vraiment perdue. Merci de nous permettre de nous adresser à un professeur à l'antenne. Qu'est-ce que peut faire Marie ?»
Alors, ça, les pleurs, c'est vraiment le mal, j'allais dire, du siècle, mais même des siècles précédents. On n'a pas encore trouvé de solution miracle aux pleurs. On peut essayer des petites choses, notamment de l'eau de chaux qu'on peut acheter en pharmacie. Ça marche parfois, pas toujours, loin de là. Et puis, il faut surtout essayer de s'armer de patience. Ça va passer. D'essayer de trouver des petits trucs qui peuvent améliorer. Alors, chez les enfants allaités, il y a un produit qu'on achète dans le commerce qui est un probiotique BioGaïa, pour ne pas le citer, qui a fait la preuve de son efficacité chez des enfants allaités. Donc, la maman peut acheter ça, s'achète sans ordonnance, BioGaïa, 5 gouttes par jour. Donc, c'est une solution aussi. Ça permet parfois de guérir certains pleurs. Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est que les enfants n'ont le plus souvent pas mal. On pense souvent qu'ils ont mal. En réalité, lorsqu'on donne la morphine à ces enfants, ils ne s'arrêtent pas de pleurer. Ils continuent à pleurer.
Donc, ils n'ont probablement pas mal. Parce que c'est assimilé aussi, quand elle dit « il pleure, je l'allaite », c'est assimilé à des coliques, professeur ?
Oui, c'est ça, c'est la même chose. Je n'utilise pas le mot colique, parce que colique ramène au côlon. Or, c'est probablement pas le côlon qui leur fait mal, et c'est probablement pas à cause du côlon qu'ils pleurent. C'est pour ça que je préfère le terme « pleure », inexpliqué. Et on pense aujourd'hui que c'est une façon de s'exprimer. C'est-à-dire qu'il y a des bavards qui parlent beaucoup. Eh bien, à cet âge-là, il y a des bavards, mais leur façon de parler, de s'exprimer, de contester, parce qu'ils ne sont pas contents, c'est de pleurer.
Mais elle ne peut pas se dire, par exemple, que la production de lait n'est pas assez abondante ou qu'il y a une mauvaise prise. C'est pas ça, quoi. Ils pleurent peut-être pas pour ça, quoi.
Non, c'est très rarement dû à l'allaitement. Il peut y avoir des montées de lait ou des productions de lait qui sont insuffisantes. Et là, ça se traduit par des enfants qui sont affamés et qui grossissent mal. Et là, d'accord, le pédiatre arrive à faire la distinction. La plupart des enfants allaités qui pleurent grossissent parfaitement bien avec des mamans qui ont suffisamment de lait et un lait qui est excellent.
D'accord, donc voilà, continuez à allaiter. Marie, ne vous inquiétez pas, ça va passer, il faut juste un peu de patience. C'est peut-être le message pour les mamans qui s'inquiètent de leurs enfants qui pleurent, on en a beaucoup. On a aussi beaucoup de questions sur les légumes, vous pensez bien. Donc si vous avez des trucs, vous nous appelez aussi pour témoigner comment vous avez réussi à faire manger des légumes à vos enfants, puisqu'il y a beaucoup de personnes à qui ça perturbe. Alors on a souvent des préjugés selon lesquels les légumes surgelés sont moins intéressants que les légumes frais d'un point de vue nutritionnel. Quelle est vraiment la différence dans l'assiette, professeur ?
Oh, je vais même aller plus loin. Les légumes n'ont pas beaucoup d'intérêt chez l'enfant. Contrairement à ce qu'on entend.
Et pourtant, 5 fruits et légumes par jour, bam, on en entend.
Alors, les 5 fruits et légumes par jour, je rappelle qu'il s'agit d'un slogan exclusivement destiné à l'adulte et que je déconseille formellement de donner 5 fruits et légumes par jour à un enfant. Heureusement, la très grande majorité des enfants n'arrivent même pas à en ingurgiter 2. Donc, faut pas avoir peur des légumes. Les légumes n'apportent que très très peu de nutriments. Les vitamines, en 30 ans d'expérience, je n'ai quasiment jamais vu de carence en vitamines chez des enfants qui ne consommaient pas assez de légumes. Donc il faut arrêter avec cette peur des légumes. 1, maximum 2 légumes par jour, légumes ou fruits par jour, sont amplement suffisants chez l'enfant. Ce dont l'enfant a besoin, chez le plus jeune, c'est du lait infantile. C'est ça qui va lui amener tous les nutriments dont il a besoin. Premier âge, deuxième âge, lait de croissance. C'est là où résident vraiment les nutriments dont il a besoin. Et un peu plus tard, c'est les produits carnés, les produits laitiers et le poisson. C'est ça qui amène ce dont l'enfant a besoin. Et ce n'est pas un hasard si les enfants aiment les produits carnés, aiment les produits laitiers et n'aiment pas les légumes. C'est parce qu'on a été sélectionné pour avoir besoin beaucoup plus de produits carnés et laitiers que de légumes. Donc que les mamans se rassurent.
D'accord, voilà, donc c'était... parce qu'on en a des questions sur les légumes, on va les passer, parce que sinon on me dit « Christina, tu passes pas nos questions ». On a une question d'une maman encore sur l'allaitement qui nous dit « Est-ce qu'il vaut mieux se passer de l'allaitement de nos jours avec tout ce qu'on entend, la malbouffe, les pesticides, est-ce que le lait infantile pharmaceutique est peut-être moins dangereux ?»
Non, ni l'un ni l'autre ne sont dangereux. Là aussi, il faut arrêter d'avoir peur des pesticides et de tout ce qu'on entend. Faut allaiter les enfants. L'allaitement maternel, il n'y a rien de mieux que pour les enfants. Il faut les allaiter le temps qu'on souhaite. Donc, faut arrêter d'écouter toutes ces peurs alimentaires qui ne sont pour la plupart absolument pas justifiées.
Voilà, donc rassurez-vous. Alors, ensuite, donc on a encore des questions sur les légumes, hein, professeur. Je connais votre point de vue, mais je vous les pose quand même. Est-ce que les techniques de préparation des légumes ont leur importance? Si voilà, si on a en face de nous des enfants qui mangent, qui les mangent, qui voilà, qui n'ont pas de soucis, est-ce que les techniques de préparation ont leur importance?
Aucunement. Encore une fois, les légumes n'apportent quasiment rien au niveau nutritionnel. Ça amène quelques vitamines, mais dont les enfants ne manquent pas. Et il faut un légume, un végétal par jour. Voilà.
Voilà, dans le repas.
Et pour retenir, un végétal par jour, quel qu'il soit, ça peut être un fruit, ça peut être un légume. Et franchement, que les parents ne s'inquiètent pas, 30 ans d'expérience, j'ai vu des milliers d'enfants, des centaines et des centaines, pour ne pas dire des milliers, qui ne mangeaient pas ces légumes. Je n'en ai jamais vu un qui avait une quelconque carence. Que les gens se rassurent.
Voilà, donc Caroline qui nous dit « Mon enfant de 4 ans peut-il manger des surgelés, des conserves? Je n'ai pas trop le temps. C'est le seul moyen que j'ai de lui faire manger des légumes. » Donc aussi, elle déculpabilise complètement.
Ah, totalement, totalement. Elle fait ce qu'elle veut. Elle peut acheter des surgelés. Elle peut les faire elle-même. Faut retirer cette peur de ne pas assez manger de légumes. Encore une fois, si nous, les êtres humains, quand on est jeunes, on n'aime pas les légumes, ça n'est pas un hasard, c'est qu'on en a peu besoin.
Mais c'est vrai qu'en fait, on entend tellement de choses, et puis on a tellement envie de faire bien, que moi, c'est vrai que quand ma fille, elle ne mange pas un légume à un repas, je panique quelque part. Parce que je me dis, oh là là, après, plus tard, autant elle n'en mangera pas, ou elle n'en mangera plus du tout. Et c'est vrai que, mais c'est peut-être à cause de tout ce qu'on entend aussi.
Ah bah, c'est essentiellement à cause de tout ce qu'on entend. C'est beaucoup d'adultomorphisme. L'adultomorphisme, c'est l'application à l'enfant de principe prouvé chez l'adulte. Peut-être que chez l'adulte, manger des légumes a un intérêt. En tout cas, chez l'enfant, il ne faut pas s'affoler. Les enfants sont attirés par ce dont ils ont besoin. Et ça n'est pas un hasard s'ils n'aiment pas beaucoup les légumes. Ça n'est pas grave. Surtout pas 5 fruits et légumes par jour. C'est une erreur diététique. Voyez jusqu'où je vais. C'est une erreur diététique de donner 5 fruits et légumes parce que ça déséquilibre totalement l'alimentation.
D'accord.
Un fruit ou légume par jour est amplement suffisant.
Ok, 04 95 32 22 22 pour poser toutes vos questions au professeur Patrick Tounion et puis sur nos réseaux sociaux, bien sûr, comme vous le faites très bien, France Bleu RCFM.
Un tempe, un arca vunduta, due scavati li guai, tutto si sguassa e tutto si taci, a volta sempre, sempre in pulvina. Voglio campama ciutame, indo dal cisogno bruvondo, e capia i baci senza rimorsa, toppe da caldea me morti. Se la mezzola premura, se lume veleno schietto, sola. Da strutti e mia angoscia baciati, cerco una tana la scosa, c'è un smintego chi ha piatto poche, chi chiori mesogni beati. Ciò che da giugno si para, e sto qui senza un scià. Mi lascio va, mi lascio in pastuglia, con la ticciuglia fine aspettata. Se è la mesola primo, sei la me brama e la me passione di ti sei. tu sei azzola.
Paul Minigone, ICI sur RCFM.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
04 95 32 22 22 pour poser toutes vos questions au professeur Patrick Tounian, pédiatre et chef du service de nutrition et gastro-entérologie pédiatrique à l'hôpital Trousseau à Paris. On parle des enfants, de vos enfants, de vos petits-enfants, mais aussi des plus grands. Hein. Voilà, il y a toutes les questions que vous pouvez vous poser. Vous pouvez nous appeler pour les poser au professeur Patrick Tounian. Justement, professeur, je rebondis sur ce que vous disiez sur les légumes. Vous disiez, il faut laisser à l'enfant manger un petit peu ce qu'il a envie, ce qu'il a besoin. Mais un enfant, il peut être quand même hyper sélectif dans le choix de ses aliments.
Oui, tout à fait. Et il y en a de plus en plus. Mais là encore, c'est assez extraordinaire parce que lorsqu'ils sont hyper sélectifs, et j'en vois beaucoup, moi, en consultation.
Je me doute.
Vers quoi ils sont attirés? Vers les produits carnés, vers les produits laitiers. Le poisson, c'est un peu plus compliqué. Rarement vers les légumes. Et beaucoup vers le lait infantile. Donc, ce sont des enfants qui boivent encore du lait de croissance à 3, 4 ans. Et finalement, ces enfants-là, ils sont attirés par ce dont ils ont besoin et ils n'ont pas de carence. La nature est très bien faite. Maintenant, il faut quand même des règles. Je les ai énoncées aujourd'hui, je les réénoncerai. Hein. Deux produits carnés, du lait de croissance le plus longtemps possible, puis deux produits carnés par jour, trois produits laitiers par jour et du poisson une fois par semaine et un ou deux fruits et légumes par jour. Voilà les principes de l'équilibre alimentaire.
Alors, on a Simone qui nous dit, est-ce que le poisson et la viande se valent-ils en quantité de protéines ?
Alors, c'est intéressant de parler des protéines, parce que tout le monde a peur des protéines. Ça n'est pas un problème dans notre pays, et fort heureusement. Le problème des protéines ne se voit que des pays en voie de développement, où les gens n'ont rien à manger, les enfants n'ont rien à manger, et ils mangent souvent que des céréales. Dans notre pays, ça n'est pas un problème. Les produits carnés ne doivent pas être assimilés aux protéines. Les produits carnés amènent essentiellement le fer. Donc, je reprends la question de cette auditrice. Est-ce que le poisson et la viande se valent en fer? La réponse est non. La viande est plus riche en fer que le poisson. La viande amène plutôt... Donc, les produits carnés, en général, apportent plutôt du fer. Et ça, c'est très important pour le développement de l'enfant. Et le poisson apporte un acide gras très important qu'on appelle le DHA, l'acide docosahexaénoïque, qui est très très important pour le développement cérébral. Donc chacun de ces deux types d'aliments, produits carnés et produits de la mer, apporte des nutriments différents. Ceci dit, les poissons ont un peu de fer, notamment les plus rouges. Et par contre, la viande n'a pas le fameux acide gras, le fameux DHA. Donc il faut combiner les deux.
Voilà, donc on alterne poisson, viande. Est-ce qu'on privilégie un petit peu aussi les sardines, professeur? Parce que c'est un petit poisson qui, en début de chaîne alimentaire, il se nourrit que de plancton. Il est peut-être moins exposé à la pollution des mers, dont on nous parle beaucoup aussi.
Alors, la sardine fait partie des bons poissons qu'on peut privilégier. Mais là encore, je vous remercie de poser la question sur la pollution et les peurs. Effectivement, on parle de la pollution au mercure, à d'autres métaux lourds, voire à des contaminants chimiques. Là encore, il faut être très, très rassurant. En dehors de certaines situations, notamment ce qui s'est passé au Japon, une fois où un industriel avait déversé du mercure dans la mer, et donc les poissons qui étaient aux alentours ont bien sûr été très très intoxiqués. Les intoxications aux métaux lourds par les poissons, ça ne reste que très théorique. Et aujourd'hui, le problème dans notre pays, ce n'est pas de donner trop de poissons aux enfants, c'est de ne pas en donner assez. Donc, un à deux poissons par semaine chez l'enfant sont suffisants pour assurer les apports. Et donc, faut vraiment tendre là-dessus. Dans mon expérience, c'est pas un problème de donner trop de poissons, en tout cas en métropole, mais c'est de ne pas en donner assez. Donc, il ne faut pas avoir non plus peur de ces peurs purement théoriques. Je n'ai jamais vu, en dehors de la situation que je viens de décrire, jamais, jamais vu une intoxication aux poissons. Et je vais dans les îles françaises où on mange beaucoup de poissons. Ils ne sont pas intoxiqués. Je rassure tout le monde.
Voilà, donc varier les poissons, hein, pas que des sardines, mais on peut manger toutes sortes de poissons. Le tout, c'est que l'enfant en mange. Mon fils n'est pas très viande, mais il adore les œufs. Un œuf vaut-il un steak? L'un peut-il être remplacé par l'autre? Nous demande Paolo.
Là encore, le problème, ce n'est pas les protéines, mais le fer. Il y a un peu de fer dans l'œuf, mais vraiment beaucoup moins que dans la viande. Donc c'est la réponse est non. Non, on ne peut pas remplacer la viande par l'œuf. On peut en donner une fois par semaine pour le plaisir, j'allais dire, il y a un peu de fer hein, dans l'œuf. Mais il faut beaucoup d'œufs pour donner suffisamment de fer. Donc non, la réponse est non. On ne peut pas remplacer systématiquement les produits carnés par de l'œuf.
Voilà, donc il va falloir qu'il mange quand même un petit peu de viande, votre fils, Paul.
Le poulet, c'est de la viande.
Oui, voilà, le poulet
voilà, vous m'avez...
Le poulet, c'est de la viande, bien entendu. On va... Une auditrice, on l'a entendu. On va la prendre, Madeleine, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez une question pour le professeur Tounion.
Bah, écoutez, j'ai pas écouté tout à fait l'émission, parce que j'étais sous la douche, et là, je sors, je vois RCFM, je pensais que c'était pour les places pour demain soir.
Ah, d'accord. Donc, vous aviez pas de questions sur l'alimentation. Vous avez pas d'enfants, pas de petits-enfants?
Non, ils sont loin, ils sont sur le continent.
Ah, d'accord. Non, mais enfin, si vous aviez une question, vous pouviez en profiter.
Eh ben oui. En plus, c'est votre radio, je sais pas si vous l'entendez, c'est ouvert.
Ben, c'est oui. Super. Vous êtes une fidèle auditrice, ça me fait plaisir. Voilà, vous nous avez fait un petit coucou comme ça.
C'est gentil. Bonne journée.
Merci, Madeleine. À très bientôt. Au revoir. On accueille une autre auditrice.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Françoise, bonjour.
Oui, bonjour docteur. Je voulais vous demander, je voudrais savoir, tous les soirs, mon petit-fils mange une soupe composée d'un bouquet, une courgette, un navet, des haricots verts, de l'oignon. Et comme j'ai entendu qu'il ne fallait pas qu'il mange beaucoup de légumes, est-ce que c'est bon ou pas ?
Il faut surtout, parce que ça ne lui apporte rien du tout cette soupe, à part le plaisir de manger une bonne soupe préparée par sa grand-mère. Mais il a quel âge votre petit-fils ?
2 ans.
2 ans. S'il consomme du lait de croissance, au moins un biberon par jour, et une portion carnée à midi, vous pouvez lui donner toute la soupe qu'il veut, et ça ne lui posera aucun problème. À 2 ans, un biberon de lait de croissance, une portion carnée par jour suffisent pour assurer les besoins en fer. En revanche, s'il n'a pas de lait de croissance à 2 ans, il faut qu'il mange 2 produits carnés par jour. Et donc, le soir, en plus de la soupe, vous lui mettez un produit carné à côté.
Ok.
Voilà.
Je vous remercie.
Merci Françoise, à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir. On va se retrouver après la météo et après le journal. Si vous avez des questions, 04 95 32 22 22.
Bonjour, c'est Lambert Wilson et c'est en tant que citoyen préoccupé par l'état de la planète que je vous parle aujourd'hui. Face aux enjeux environnementaux, il y a 2 façons d'envisager l'avenir. Le fatalisme, après moi le déluge, ou la détermination qui pousse à agir. Avec Greenpeace, j'ai choisi la détermination. Et même lorsque nous ne serons plus de ce monde, il y a un geste simple et concret, un geste d'espoir. Faire un leg à Greenpeace, c'est agir au-delà du temps pour cette terre à qui nous devons tout. Pour en savoir plus, rendez-vous sur internet leg.greenpeace.fr.
Animation et atelier autour des valeurs de la Saint-Andrea du 27 au 30 novembre à la Maison des Quartiers Sud, à la salle polyvalente de Loupine et dans le centre ancien de Bastia. Plus de renseignements sur bleu.rcfr.
C'est parti pour le script Direct Assurance. Alors, la publicité Direct Assurance montre un conseiller qui prend un appel pendant qu'il se fait attaquer par un monstre. Non, il se fait emporter par une tornade. Pas terrible. Bon, eh bien, la publicité Direct Assurance ne montre rien du tout, puisque tout ce que nous avons à dire, c'est que nos conseillers font toujours tout leur possible pour vous aider, et c'est pour ça que Direct Assurance est élu service client de l'année 2020. Rendez-vous sur directassurance.fr, le slogan « On gagne toujours à être direct » et le jingle. Ta-ta-ta-da-da. Catégorie assurance de biens, études BVA Group, visio OCI, mai à juillet 2019, plus d'infos sur escda.fr.
La paire. Ah, votre nouveau plan de travail, où vos talents culinaires peuvent maintenant s'exprimer sans entrave, sans cette cafetière et ses bocaux, mais avec vos enfants, qui ont trouvé l'endroit idéal pour cuisiner avec de la pâte à modeler. Enfin, vous leur pardonnez vite, car vous avez profité des moins 15% sur les meubles de cuisine et plans de travail chez La Paire, valable jusqu'au 25 novembre.
La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie.
Conditions sur lapaire.fr.
La météo avec Agir Plus d'EDF, la collectivité de Corse et l'ADEME. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Du petit coup d'œil du côté du temps, les éclaircies encore belles par endroits le matin ne durent pas. Le ciel charge l'après-midi de petites pluies ou des averses se produisent sur la partie occidentale du département ainsi que sur la région bastiaise et l'intérieur du département. La limite pluie-neige peut s'abaisser jusqu'à 1700 mètres. Des cumuls de l'ordre de 15 mm de pluie sont localement prévus. Vent de sud-est, modéré dans le Cap Corse, vent d'ouest à nord-ouest, assez fort sur l'extrême sud. Température maximale comprise entre 14 et 17 degrés sur le pourtour du département et en Castaniche. Sur les autres régions, autour de 6 à 9 degrés. RCFM, il est 10h. Le point sur l'actualité, Didier Arnoux, bonjour.
Le conflit à la poste de Bastia se poursuit. Ce matin, les grévistes ont brûlé des palettes devant leur centre et bloqué un camion. Ils protestent contre une réorganisation interne qui pourrait aboutir, selon eux, à des suppressions de postes. Selon la CGT hier, la direction a quitté la table des négociations. Pas de reprise du dialogue ce matin au terme de plus de 3 semaines de conflit. 25 contrôleurs sillonnent actuellement les exploitations agricoles de Corse. La préfète de région et la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ont fait hier un point d'étape sur la campagne de contrôle actuellement réalisée dans le cadre des aides européennes de la PAC, la politique agricole commune. Les moyens ont été renforcés, les enjeux sont considérables puisque la France doit défendre une enveloppe d'1 400 000 euros pour le développement de son agriculture auprès de l'Europe. À ce stade, 550 exploitations insulaires doivent encore faire l'objet d'un contrôle et pour l'heure pas de nouvelles fraudes majeures constatées, seulement des anomalies sur des déclarations de surface. 18 mesures pour améliorer la vie des étudiants en Corse, elles ont été présentées hier à Corte par l'exécutif et le CROUS. 21,5 millions d'euros, c'est le budget prévisionnel alloué à ce dispositif sur 4 ans. Parmi les mesures phares, une aide financière pour la complémentaire santé, un coup de pouce jusqu'à 400 euros pour les frais de rentrée. Il y a également un gros volet logement avec une nouvelle résidence qui devrait ouvrir au printemps 2021. Bientôt également des appels à projets en lien avec des associations pour épauler les étudiants. Et puis la 8e journée du championnat de France de volley Liga, c'est ce soir à 20h au Palatine ou avec une rencontre qui opposera le GFCA à Toulouse.
Merci Caroline, à tout à l'heure pour un prochain point sur l'actualité.
Bonjour, c'est Lambert Wilson et c'est en tant que citoyen préoccupé par l'état de la planète que je vous parle aujourd'hui. Face aux enjeux environnementaux, il y a deux façons d'envisager l'avenir. Le fatalisme, après moi le déluge, ou la détermination qui pousse à agir. Avec Greenpeace, j'ai choisi la détermination. Et même lorsque nous ne serons plus de ce monde, il y a un geste simple et concret, un geste d'espoir. Faire un leg à Greenpeace, c'est agir au-delà du temps pour cette terre à qui nous devons tout. Pour en savoir plus, rendez-vous sur internet leg.greenpeace.fr.
RCFM, première radio de Corse.
France Bleu, RCFM. France Bleu.
RCFM, Christine Alouzi, les experts.
Bonjour et bienvenue ce matin dans Les Experts. On parle de l'alimentation de nos petits qui représente parfois un véritable casse-tête. On ne sait pas toujours si on fait bien, si on lui donne l'aliment qu'il faut, si c'est assez, si c'est pas trop. Que de questions, mais formidable. Mon invité de ce matin, et vous commencez à bien le connaître, le professeur Patrick Tougnon, pédiatre, chef du service de nutrition gastro-entérologie pédiatrique à l'hôpital Trousseau à Paris, a toutes les réponses à vos questions. Et puis comme il y en a beaucoup, on va prendre tout de suite le premier auditeur.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Louis, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous aviez une question pour le professeur Tougnon.
Oui, voilà. Alors, bon, moi, je suis boucher de métier. Et
quel beau métier, donc, moi, comme mon grand-père.
Pardon ?
Quel beau métier, mon grand-père était boucher.
Bon, c'est bien. Oui, très beau métier. Alors, donc, c'est pour savoir. Alors, moi, je conseille quand même à mes clientes qui ont des enfants, mais pas, bien sûr pas en bas âge, mais de leur donner de la viande saignante.
Eh oui, ça, ça,
il pour récupérer le jus. Parce que souvent, les parents mangent la viande très cuite.
Et c'est ceux qui n'aiment pas la viande,
en
fait.
Pour l'intérêt de donner de la viande très cuite, quoi.
Voilà. Oui, c'est ceux qui n'aiment pas la viande qui mangent de la viande très cuite, non ? C'est ça ?
Pardon ?
C'est ceux qui n'aiment pas la viande qui mangent la viande très cuite.
Tout à fait, tout à fait.
Eh oui.
Voilà, donc je voulais savoir si, à partir de quel âge on pouvait leur donner... déjà, on peut donner que le jus. Est-ce que c'est bien ? Et puis, à partir de quel âge on peut leur donner de la viande saignante ?
Professeur ?
Ou à point ?
Très bonne question, monsieur. D'abord, moi, je suis un grand amateur de viande et je la mange bleue. Ça, c'est
alors,
pour
vous serez le bienvenu chez moi si vous venez.
Alors, maintenant, revenons aux enfants. Est-ce oui. Que, alors, au point de vue nutritionnel, viande saignante ou viande cuite, c'est pareil. Donc, il n'y a pas de problème au niveau nutritionnel. Maintenant, les risques de la viande saignante, ou encore mieux, bleue. C'est non pas une bactérie qu'on appelle Escherichia coli et qui donne des maladies graves, on va y revenir, mais le ténia, qui est un ver, le ver solitaire.
C'est le ver solitaire, oui.
Et donc, lorsqu'on mange de la viande bleue ou saignante, le ténia qui se trouve sous forme de larves à l'intérieur de la viande, qui peut se trouver, donne un ver solitaire. C'est rare et ça n'est pas grave, c'est juste désagréable. Donc, est-ce qu'on peut donner de la viande saignante aux enfants? La réponse est oui. Ça, pas, c'est pas d'un point de vue nutritionnel, mais d'un point de vue gustatif. On parle tellement de peur alimentaire qu'aujourd'hui, il faut réapprendre aux petits Français à bien manger. Et bien manger, c'est avoir la bonne bouffe qui fait du bien et la viande, ça se mange bleu.
Voilà, c'est le goût.
D'accord,
c'est avec le goût.
Voilà, c'est pour le goût. Alors, juste un point. La viande hachée.
Oui.
En revanche, la viande hachée,
c'est
chez les moins de 5 ans, là, il faut qu'elle soit très bien cuite. Parce que la viande hachée, elle peut transmettre ce fameux Escherichia coli dont je vous ai parlé. C'est rare, il y a 100 de cas par an en France, mais c'est une maladie grave. Donc, pour résumer, la viande hachée doit être très bien cuite, donc pas saignante, chez les enfants de moins de 5 ans. Au-delà, on peut y aller, on peut manger des steaks tartare. Par contre, le beefsteak, il peut se manger même bleu chez les tout
petits enfants,
il n'y a pas de risque. Et au contraire, ça leur apprend à manger la vraie viande et les vrais carnivores, comme vous et moi, vous deux et moi.
Non, je suis végan.
Mais depuis, professeur Tounian, à partir de 4 mois, on peut donner de la viande bleue?
Alors, à partir de 4 mois, généralement, on donne pas de viande, hein, puisque c'est...
Bah, hachée, effectivement, on la mixe, mais...
Et à partir du moment où elle est mixée et qu'elle a été cuite, si le beefsteak a été cuit avant d'être mixé, donc avant d'être haché, on peut faire un beefsteak, on ne fait pas comme ça, mais on peut faire un beefsteak bleu et le hacher après. Par contre, il ne faut pas hacher la viande crue. Quand la viande a été hachée crue, c'est ce qu'on fait quand on va chez le boucher. Hein.
Oui.
Le boucher hache la viande crue. Quand la viande a été hachée crue, il faut qu'elle soit très bien cuite.
Très bien cuite. Et je rebondis sur ce que vous dites, Louis. Peut-être que vous allez nous porter cette information qui est, je pense, importante. Mon grand-père disait toujours, quand on achète de la viande hachée, il faut la cuire tout de suite ou la congeler tout de suite.
La viande hachée, on ne peut pas la garder parce qu'il y a, un effet de d'échauffement de la viande dans la machine. Mmh. Qui fait que les bactéries se développent beaucoup plus vite que sur un morceau de viande qu'on coupe au couteau.
Voilà, donc du coup, il faut la cuire tout de suite ou la mettre au congélateur, enfin au congèle, quoi, pour le coup, pour qu'elle soit congelée, pour tuer toutes ces bactéries.
Il est conseillé de la manger le plus rapidement possible, voilà.
Voilà.
Après,
qui est très très bon, le steak tartare, on peut pas la manger tout de suite, il faut quand même arriver jusque chez soi et préparer le steak tartare.
Oui, non, mais quand je dis tout de suite, c'est au plus tôt dans les 2 heures qui suivent mais pas la garder. Le certains nous demandent et nous tous les jours quand on vend de la viande hachée, on demande c'est pour aujourd'hui, c'est pour demain. Ah oui, c'est pour demain. Non, regardez, pour demain. Nous on leur dit, on vous conseille de la prendre demain.
Ouais, ou alors de la mettre au congélateur, quoi.
Non plus ce réflexe, parce que ils sont habitués avec les grandes surfaces à prendre des paquets de viande hachée sous atmosphère modifiée, où il y a une date qui va jusqu'à 5 jours.
Oui.
Donc ils pensent qu'en la prenant chez nous hachée frais devant leurs yeux, ils pensent qu'ils peuvent la garder 1 ou 2 jours. Voilà.
Non, c'est pas
alors, c'est pas pareil. Non, il faut pas le faire.
Voilà, surtout pas.
Donc il faut éduquer encore les gens, enfin les clients quand ils viennent. Et tous les jours, nous, on leur dit non, le steak haché, on leur dit il faut le manger. Surtout si vous le mangez bleu ou saignant, il faut le manger le plus vite possible.
Voilà.
Mais je reviens pour les enfants. La viande hachée doit être très bien cuite avant 5 ans. C'est très important.
Oui.
Voilà. Par contre, on peut donner, à un enfant de 2 ans, par exemple, on peut donner une viande bleue sans aucun souci. Il y a le ver solitaire, mais c'est pas très dangereux.
Voilà.
Ouais. Bon, ma petite fille qui avait un mois, on lui a donné du magret, qui était rosé. Elle a aimé, hein.
C'est un autre problème, le canard.
Donc, ça va.
C'est une bactérie moins dangereuse.
C'est un autre problème, vous disiez, professeur, le canard?
Oui, le canard, le poulet, c'est ce qu'on appelle un campylobactère, qui est une bactérie qui, lorsque la viande est mal cuite, peut être transmise aux enfants et ça donne une diarrhée avec du sang et des douleurs abdominales. C'est pas très très dangereux, c'est beaucoup moins dangereux que le fameux
échantillon
dont je vous ai parlé.
Bon, ben merci beaucoup Louis.
Merci
à vous. Pour votre appel.
Bon, voilà, merci beaucoup pour ces renseignements.
Et puis à très bientôt.
Bonne émission.
Merci beaucoup, au revoir. Merci. On accueille une autre auditrice.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Lily, bonjour.
Bonjour.
Alors,
voilà,
vous avez une question.
C'est pour le sommeil.
Pour le sommeil.
Voilà. Alors, j'ai ma petite fille, c'est ma petite fille qui n'arrive pas à bien dormir.
D'accord.
C'est-à-dire qu'avant, elle dormait très bien, et puis maintenant, plus ça va, moins elle dort, et on a des problèmes pour l'endormir, parce qu'il faut 3 heures avant qu'elle s'endorme. Enfin, 3 heures, j'exagère. Enfin, bien au moins une demi-heure avant qu'elle s'endorme.
Et vous pensez que ça a des problèmes? Elle a quel âge?
Elle a 18 mois.
D'accord. Et vous pensez que ça a un lien avec son alimentation?
Alors, je ne sais pas. Je pose la question, j'en sais rien, je ne sais pas.
D'accord. Alors, professeur,
c'est assez fréquent, hein, les enfants qui ont des troubles du sommeil. C'est presque jamais en rapport avec l'alimentation. Il faut donc aller voir votre pédiatre. Une des causes principales, c'est lorsque l'enfant s'endort d'une certaine façon, par exemple avec une tétine, pire encore avec un biberon ou quand on la berce. Quand l'enfant se réveille dans la nuit, il a envie d'être réendormi de la même façon. Donc une des façons de faire, c'est de l'endormir classiquement, c'est-à-dire qu'on le pose dans son lit et on attend qu'il s'endorme. Mais par contre, les troubles du sommeil doivent être pris en charge très tôt, donc je conseille à cette dame de montrer son enfant à un pédiatre qui va essayer de voir d'où
vient ça vient.
Le problème de trouble du sommeil.
Elle s'endort avec un biberon, Lily, votre petite fille?
Non, avec une sucette. Mais elle s'endort, elle dort, elle se réveille la nuit. Mais bon, c'est vrai qu'on lui remet la sucette automatiquement. Mais elle se réveille souvent. Et bon, ça dépend aussi les nuits, pas toutes les nuits quand même. Hein.
C'est un peu comme vous, quoi, en fait.
Vous voyez, voilà. Ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'elle s'endort avec une tétine, et donc lorsqu'elle se réveille dans la nuit, elle veut se rendormir avec la tétine, et donc si elle ne trouve pas sa tétine, elle hurle. Et dès que vous lui trouvez,
elle bouge, et après, bon, on lui remet sa tétine, elle s'en rendort, mais elle a sommeil, on dirait qu'elle, pas que j'ai mis, bon, j'exagère, mais... C'est pas un sommeil calme.
Elle n'a pas un sommeil calme.
Elle est beaucoup agitée, voilà. Elle bouge. Voilà.
Et vous vous demandez si elle a pas mal au ventre, c'est ça?
Ben voilà.
Non. Elle n'a pas mal au ventre. De très loin, je vous le dis, elle n'a pas mal au ventre.
je pense bien. Mais c'est vrai qu'avant, elle n'avait pas de problème. Elle dormait d'un trait. Et maintenant, pour l'endormir, mais alors c'est long. Des fois, c'est vrai qu'on n'arrive pas. Alors on dit tant pis, tu n'as pas envie de dormir, tu ne dors pas, puis tant pis. Bon, mais c'est vrai qu'après arriver au soir, elle n'en peut plus, mais quand même, elle a du mal à prendre son sommeil.
Ça après, c'est des caractères aussi, je crois. Hein.
Oui, elle a du caractère, c'est vrai.
Mais voilà. Et c'est très bien pour plus tard.
Voilà. Bon, je vous remercie.
Ben merci Lily, à bientôt. Et tenez-nous au courant, n'hésitez pas. Hein.
D'accord.
Allez, au revoir. 04 95 32 22 22 si vous avez des questions pour le professeur Patrick Tounan, pédiatre, chef du service de nutrition et gastro-entérologie pédiatrique à l'hôpital Trousseau à Paris. On a aussi des questions aux réseaux sociaux, je vais en dire encore quelques-unes. On a une question de Valérie qui nous dit: est-ce que les petits garçons ont besoin de plus de calories que les filles?
Oui, à peine. Et là encore, c'est comme les protéines, faut pas être inquiet, les enfants consomment les calories dont ils ont besoin. Donc on ne restreint pas les enfants et ils vont manger ce dont ils ont besoin. Donc oui, je réponds, mais c'est très théorique, oui, les enfants, les garçons ont un tout petit peu besoin de plus de calories que les filles.
Alors, on a Monique qui nous demande: est-il vrai que l'équilibre alimentaire se fait sur quelques jours et non sur une journée ?
Oui et non, c'est-à-dire qu'il faut quand même, vous voyez, c'est 2 produits carnés par jour, 3 produits laitiers par jour, c'est difficile quand on prend du retard. C'est-à-dire si on dit, aujourd'hui, comme la catastrophe qui est le repas végétarien à l'école, qui est une catastrophe symbolique, et si on n'a pas mangé 2 produits carnés, il faut les rattraper le lendemain, ça fait 4. ça fait un peu beaucoup. Donc, vaut mieux quand même, dans la journée, équilibrer l'alimentation pour assurer les deux produits carnés, les trois produits laitiers. C'est vraiment les points les plus importants. Et le poisson, c'est plus facile, parce que c'est une à deux fois par semaine. Donc là, effectivement, on peut remettre au lendemain. Et voilà. Mais sinon, globalement, si on pouvait rattraper, effectivement, ça pourrait se faire sur plusieurs jours. Par exemple, si on mange du boudin noir, qui est très très riche en fer, eh bien, on peut, en une consommation, assurer quasiment l'équivalent de 4 ou 5 produits carnés.
Voilà.
C'est possible sur plusieurs jours, selon les aliments consommés.
Voilà Monique, j'espère que ça aura répondu à votre question. On accueille une auditrice.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Bonjour Priscilla.
Bonjour.
Alors vous avez une question pour le professeur Tounion.
Oui, tout à fait. Alors moi je viens d'accoucher, ma petite fille elle a un mois et demi.
Félicitations.
Et merci.
Comment elle s'appelle?
Et en fait, Léria.
Ah, c'est très beau.
Merci. Et en fait, moi j'ai un petit bébé, donc déjà je faisais 2,760 kg à la naissance. Mais c'était pas une grosse petite. Donc on a du mal. Elle mange que 60. Et c'est vrai que au final, en fait, elle fait pas ses nuits. Enfin, elle se réveille assez fréquemment. Et elle a des colites. Donc on a essayé des traitements. Mais c'est vrai qu'elle a encore mal, la peau. Est-ce qu'il y avait un moyen, justement, par rapport à l'alimentation ou l'homéopathie, quelque chose, pour la calmer un peu plus? Parce que ça fait mal au cœur, quoi.
Professeur.
De l'avoir comme ça.
J'ai pas bien entendu. Quel âge a-t-elle?
Un mois et demi.
Elle a un mois et demi.
Un mois et demi. D'accord. Donc, vous êtes dans la phase des pleurs inexpliqués. Les coliques, ça oriente vers le côlon. Or, votre enfant n'a probablement pas mal. Elle s'exprime. Elle exprime quelque chose. Soit elle a envie de parler. Soit elle est un peu plus difficile que les autres. Donc, rassurez-vous, elle n'a pas mal. Et par contre, c'est assez angoissant pour les parents et je comprends tout à fait votre attitude. Il n'y a pas vraiment de réponse alimentaire à ça. C'est un peu de patience. Trouvez vous-même des trucs, des massages, éventuellement l'homéopathie, ça peut avoir un intérêt dans cette situation-là, qui pourrait la soulager. Et puis surtout, rassurez-vous, dans les semaines qui viennent, ça va spontanément disparaître.
Priscilla, elle a
oui,
pris.
Il n'y a pas de sur-remède à ça.
Vous disiez qu'elle était née avec un petit poids. Elle prend bien son poids. Elle prend bien du
oui,
poids.
Oui, alors elle grossit. Ça, il n'y a pas de souci parce qu'elle prend que 60. Mais c'est vrai qu'à un mois et demi, normalement, elle est censée prendre des poulies de 90, 120, quoi.
C'est dangereux. C'est problématique, ça, professeur?
Non, pas du tout. Les pédiatres donnent des indications, mais tous les enfants sont différents. Il y a des enfants gros mangeurs, des enfants petits mangeurs. Chaque enfant adapte parfaitement son appétit à ses besoins. Et donc, il ne faut surtout pas s'affoler si votre enfant ne consomme pas la quantité qui a été prescrite à partir du moment où elle grossit convenablement et qu'elle n'a pas de maladie. Chaque enfant a un appétit différent et c'est pour ça que j'ai tendance à toujours dire et écrire que les indications de volume sont simplement indicatif, c'est le cas de le dire, et chaque enfant peut manger différemment et être tout à fait normal.
Et vous le disiez, professeur, chaque enfant se régule, en fait, c'est assez bien fait, la nature, quelque part. Hein.
La nature est extrêmement bien faite, et un enfant qui mange davantage, sait qu'il a besoin davantage, un enfant qui mange moins, sait qu'il a besoin de moins de calories, laissez les enfants proposer, et laissez les enfants consommer.
Donc vous le dites toujours, faire toujours un peu plus, hein, le biberon, on fait toujours un petit peu plus, on fait de 30 en plus, et on voit ce qu'il prend, en fait.
Exactement. On propose toujours, on ne le restreint pas, et s'il finit son biberon de 60, 90, 120, eh bien, on monte à l'étage au-dessus, de 120, on passe à 150, on jette le reste, bien évidemment, mais on le laisse consommer à volonté le volume de biberon qu'on lui a proposé.
Justement, professeur, je rebondis là-dessus. Hein. Combien de temps doit durer la tétée? Est-ce qu'il y a une durée limite?
La principale quantité de lait bu, c'est au cours des 5 premières minutes.
D'accord.
Généralement, c'est pas plus de 10 minutes. On peut passer à l'autre sein, mais la grande majorité est encore une fois bu dans les 5 premières minutes. Les enfants qui restent 25 minutes, 30 minutes au sein, ils utilisent le sein comme une tétine.
Et pareil pour le biberon ?
Ils alimentent plus. Le biberon, généralement, ça se voit, puisque le biberon se vide et on ne donne plus le biberon quand il est vide.
Non, non, bien sûr. Non, mais je veux dire, il y a des enfants qui têtent plus longtemps que d'autres, quoi. Enfin,
Alors, oui, tout à fait. Il y a certains enfants qui engloutissent très rapidement le biberon, d'autres qui mettent plus de temps. Chaque enfant est différent. partir, chaque être humain est différent et il faut arrêter d'être trop normatif. Et cette volonté normative, on veut que tout le monde ait la même taille, le même poids, mange de la même façon, etc. Eh bien, on en arrive à développer des angoisses qui aboutissent à ces déviances alimentaires particulièrement délétères.
Ça va répondre à votre question, Priscilla ?
Tout à fait, merci beaucoup.
Merci à vous, à très bientôt.
Merci, à bientôt, au revoir.
Au revoir. 04 95 32 22 22 pour poser toutes vos questions au professeur Patrick Tounion.
RCFM.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
On continue à prendre toutes vos questions sur l'alimentation de vos enfants, vos petits-enfants, des enfants les petits, les grands, avec Dominique. Bonjour.
Bonjour. Alors, bonjour, bonjour professeur. Je voudrais poser une question au professeur.
Bien sûr.
À savoir, qu'est-ce qu'il en pense des petits déjeuners à base de Nutella qui sont servis par certaines mamans, hein, aux enfants tous les matins, au lieu de lui donner du pain, du beurre et confiture comme on faisait avant, qu'est-ce que vous en pensez de la Nutella, s'il vous plaît?
Alors, les mamans font ce qu'elles veulent. Donc, si votre question c'est est-ce que le Nutella est nocif pour la santé des enfants, très clairement, non. Ah. Est-ce que c'est pas bien de donner du Nutella tous les jours? Très clairement, non, c'est absolument pas contre-indiqué. Le Nutella n'est pas un produit toxique et si les mamans veulent en donner tous les matins à leur enfant, je n'ai en tant que médecin aucune raison de l'interdire. Si par contre ils préfèrent donner du pain, du beurre et de la confiture, je n'ai tout autant pas de raison de l'interdire. Je crois, madame, qu'il faut ne pas trop écouter ce qu'on entend à droite et à gauche. Si le Nutella était toxique, il serait depuis très très longtemps retiré du marché mondial. Donc le Nutella est un produit plaisir qui apporte du plaisir, je le dis d'autant plus que moi je n'aime pas le Nutella, qui apporte du plaisir aux enfants et en tant que spécialiste de nutrition, j'affirme que le Nutella n'a aucune toxicité chez l'enfant. Voilà.
Eh bien, c'est rassurant tout ça. Merci, professeur.
Merci, Dominique. À très bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir. Un autre auditeur qui a une question pour vous, professeur. Sébastien, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, Sébastien.
Bonjour, j'aurais une question à vous poser concernant la constipation chez l'enfant. J'aurais voulu savoir quel aliment était à privilégier.
Votre enfant a 4 ans, c'est ça, hein ?
Oui.
Alors, c'est une très bonne question. Parce que moi, je vois beaucoup de constipation, parce que c'est ma spécialité, et les parents arrivent, les enfants sont bourrés de légumes, et ça ne marche pas. Il faut très rapidement, dans les vraies constipations, passer aux médicaments. Donc vous allez voir votre pédiatre et vous arrêtez tous les régimes et on passe directement aux médicaments. Le problème de la vraie constipation, le régime n'a absolument aucun intérêt. Le régime peut avoir un intérêt dans les constipations transitoire, lorsque vous changez de lieu, etc., où là, en augmentant un peu certains légumes, on a un effet. La vraie constipation, celle qui gêne, celle qui dure, là, le régime n'a absolument aucun intérêt. Moi, spécialiste de gastroentérologie pédiatrique, lorsque je vois un enfant constipé qui vient de boire, jamais je ne parle de régime. Je donne des médicaments. Et c'est ce qui vous sert. Donnez très rapidement des médicaments, sinon votre enfant, il va avoir des complications de sa constipation et ce sera beaucoup plus dur. Donc, allez voir votre pédiatre qui va vous donner des médicaments. Et redonnez-lui un régime équilibré parce que ces régimes bourrés de légumes sont souvent très déséquilibrés.
D'accord, je vous remercie beaucoup.
Merci Sébastien, à très bientôt.
Merci beaucoup, à très bientôt.
Au revoir. Je rebondis juste sur ce que disait Sébastien, sur la constipation. Est-ce qu'on peut donner de l'épargne aux enfants, comme on peut prendre adulte ou pas, professeur, pour faciliter justement le transit?
Oui, on peut. Alors, chez les tout-petits, il faut être prudent. Chez le jeune nourrisson, ne pas dépasser 3 biberons par jour. Mais là encore, je reviens sur ce que je disais. Nous qui voyons des constipations plutôt sévères, puisqu'on est un service spécialisé, on voit souvent ces enfants qui ont eu un peu d'épargne, qui ont eu un peu de régime avec plein de légumes, des pruneaux, de l'orange, etc. Et ils arrivent, ça fait des mois, des années qu'ils ont des constipations, avec des complications, des fissures anales, voire une encoprésie, alors qu'il suffit simplement très rapidement de leur donner des médicaments absolument pas toxiques, très efficaces, comme l'huile de paraffine, ça s'achète sans ordonnance, ça coûte absolument pas cher, avec une efficacité redoutable. Donc mon message, ce sera un enfant qui a une constipation qui dure, foncez chez le pédiatre et demandez-lui des médicaments. Sinon, vous allez directement à la pharmacie, vous achetez de l'huile de paraffine.
Et on donne combien ? On en donne combien ? Enfin, on ne fait pas d'ordonnance
en premier direct. Jusqu'à temps que ce soit efficace.
Pardon, excusez-moi ?
Jusqu'à temps que ce soit efficace.
D'accord.
Il y a une gelée rose dont je ne citerai pas le nom, mais qu'on peut acheter en pharmacie. Et on donne 2 cuillères par jour. Ça ne suffit pas. 3, 4, jusqu'à temps que ce soit efficace. Il n'y a aucune toxicité. Et vraiment, il faut traiter rapidement les constipations de l'enfant et éviter que ne s'installe
alors,
des complications.
Professeur, vous faisiez le distinguo entre constipation qui dure et constipation transitoire. C'est quoi une constipation qui dure ? C'est qu'au bout de combien de temps on s'inquiète ?
À partir du moment où la constipation transitoire, vous savez, vous allez en vacances et les enfants sont constipés. Ça, c'est quelque chose de transitoire. Ça va passer éventuellement.
En quelques jours.
Voilà. Et la constipation qui dure, c'est la constipation qui récidive ou bien qui arrive à la maison. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun changement et tout d'un coup, l'enfant est constipé. On peut être constipé aussi après une gastroentérite, paradoxalement, c'est-à-dire dans les jours qui suivent. Mais tout ça, ce sont des constipations transitoires qui restent toutes seules. Donc, il n'y a pas besoin. Mais les constipations qui durent, c'est-à-dire comme ce monsieur qui a appelé et qui disait que son enfant était constipé, je pense qu'il n'est pas constipé de la veille. Il est constipé depuis plusieurs semaines. Donc, ça n'est pas une constipation qui dure. Et celle-ci, il faut vraiment passer rapidement aux médicaments.
Merci. On va accueillir une autre auditrice.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Jocelyne, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez une question pour le professeur Tognon.
Oui, bonjour, professeur. Écoutez, moi, je vous appelle pour mon arrière-petite-fille.
Ah, c'est beau.
Voilà, oui.
Alors, vous avez une voix très jeune, madame. On croirait que vous êtes encore maman.
J'en ai 72.
Ah ben, voilà. Vous voyez, une jeune arrière-grand-mère. Ah,
vous êtes très, oui, vous êtes effectivement voilà. Très jeune.
Dites-moi, la petite, elle a 7 mois et bon, ça fait quelque temps. Bon, elle a été enrhumée. Elle a beaucoup de glaire. Elle est très encombrée quand on l'a dans les bras. On entend ronfler dans sa cage thoracique. Mais bon, le pédiatre ne veut rien lui donner. Voilà, il dit ça va passer tout seul. Mais bon, elle a quand même des glaires qui la gênent, quoi, cette petite. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner, par exemple, en homéopathie, si toutefois.
Le clapping, peut-être, professeur, aussi, ça marche bien.
Pardon ?
Je dis le clapping, ça marche bien aussi sur les enfants.
Oui, mais bon, elle n'est pas au point d'avoir le clapping, hein, parce qu'elle n'est pas gênée plus que ça. Elle mange tout, elle mange bien, elle dort. Bon, il la mouche souvent, ça c'est sûr, parce qu'elle est enrhumée. Voilà. Mais c'est dans sa cage thoracique, ça ronfle. Voilà, c'est. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner pour évacuer ses glaires ?
Alors, on sort, je vais reprendre ma casquette de pédiatre, parce qu'on sort de l'alimentation.
On sort un peu l'alimentation, là.
Donc, c'est assez fréquent hein, d'avoir des enfants qui ronflent comme ça. Votre pédiatre a raison. Généralement, ça passe. Bon, faut être sûr qu'il n'y a pas une maladie respiratoire derrière. Généralement, ça passe. Alors, Christine, vous parliez de la kinésithérapie. Je rappelle que tout récemment, la kinésithérapie, la Haute Autorité de Santé, la HAS, a enfin dit qu'il ne fallait pas faire de kinésithérapie dans les bronchiolites.
Oui.
Et ça, je suis très très content, bien que ce ne soit pas ma spécialité. Mmh. Et il s'avère que j'ai une fille asthmatique. Enfin, je l'ai toujours, mais elle l'est moins. Donc, oui. Je crois que ces situations sont très fréquentes. Des enfants qui ronflent, c'est une espèce d'adaptation à la vie. Et il faut juste s'assurer qu'il n'y a pas une maladie respiratoire sous-jacente. Mais je pense que votre pédiatre l'a fait.
Oui.
Et puis, effectivement, attendre que ça passe, l'homéopathie dans cette situation a bien sûr absolument aucun effet. Je rappelle que l'homéopathie a purement un effet placebo.
D'accord. Bon, et on ne peut pas donner un sirop pour l'aider à cracher,
non.
Enfin, à faire remonter un peu ses glaires, parce que ça...
Non, et je pense qu'elle est moins gênée que vous.
Oui, c'est ça. On est plus gênés qu'eux, je crois.
Vous avez voilà. Raison. Quand on l'écoute, mon Dieu, on a l'impression de s'étouffer pour elle. Mais
c'est
en
ça.
Fait, non, hein, voilà, vous avez
non.
Raison. Bon, mais écoutez, je vous remercie.
Merci, Jocelyne, à très bientôt.
Oui, merci.
Au revoir.
Hein. Au revoir.
Au revoir, bonne journée.
On va prendre votre... une consultation pédiatrique, votre émission.
Oui, c'est ça. Ben, on a tellement de mal à avoir des médecins, je crois qu'en fait, on profite quand on a en plus un professeur de votre nom sur l'antenne, et ben, ils en profitent. On va prendre un dernier auditeur, mais vraiment 30 secondes. Marie-France, bonjour.
Oui, bonjour.
On arrive en fin d'émission, Marie-France. Ça sera la dernière question pour vous.
D'accord, je vais être assez rapide. En fait, moi, j'appelle pour mon fils qui a 12 ans,
oui.
Qui est passionné de foot. En fait, il ne pense qu'au foot. Et de temps en temps, il se met au régime de lui-même. Hein. Ce n'est pas moi qui le... Parce qu'il trouve qu'il se trouve trop gros. En fait, il n'est pas... Enfin, moi, je ne le trouve pas gros. Il est potelé. Il pèse 38 kilos pour 1m45. Voilà, donc je pense que c'est assez correct. Et c'est vrai que je trouve, quand il se met au régime de lui-même, c'est un régime strict, c'est-à-dire qu'il va manger un petit peu de salade verte, une tomate et rien de plus, quoi. À midi, le soir, pareil. Quand il fait ça, et vraiment, il arrive à maigrir, quoi, vraiment assez rapidement. Mais j'ai peur justement que ce soit dangereux. Je voudrais savoir qu'est-ce que je pourrais lui donner. Alors moi, ce que je fais, je lui donne des mousses au chocolat sans sucre. Parce que je me dis qu'il y a le blanc d'œuf pour les protéines et le fer dans le chocolat noir, quoi. Mais sinon, je ne sais pas trop en fait quoi lui donner.
Alors déjà, votre fils, j'espère qu'il deviendra un grand footballeur, et tous les footballeurs sont au régime. Donc je vous rassure, s'il devient footballeur professionnel, il sera au régime. Non, ce dont il a besoin, je répète, c'est 2 produits carnés par jour, 3 produits laitiers par jour, et vous pouvez lui donner du produit laitier à 0%, comme ça il pourra continuer son régime, du poisson 1 à 2 fois par semaine, mais pas la mousse au chocolat. Donc vous lui donnez beaucoup de viande, beaucoup de produits laitiers à 0%, comme ça, il aura non pas les protéines, aucun enfant ne manque de protéines, il aura le fer, le calcium dont il a besoin, et il pourra rester mince et devenir un grand footballeur. Ce que je lui souhaite.
D'accord, donc surtout des produits laitiers.
Produits carnés. Voilà, et produits carnés. C'est ça qui est important pour l'alimentation de l'enfant, surtout à 12 ans. Parce que sinon, il va être très rapidement carencé en fer, en calcium. Et en calcium, s'il devient un grand footballeur, il se cassera facilement, ce qui n'est pas très bien.
D'accord. Est-ce que je peux mettre du sucre de remplacement comme de l'hermésétas ou
Oui, mais n'ayez pas peur du sucre. N'ayez pas peur du sucre. D'ailleurs, lui-même va le limiter. Mais vous pouvez mettre du sucre normal dans le yaourt. Ça pose pas de problème. C'est pas la quantité de sucre qui va le faire grossir.
D'accord. Bah, c'est lui qui ne veut pas, en fait. Hein, donc
je me doute.
Alors, il faut que je le fasse.
Il n'en voulait pas, mais vous pouvez lui donner des édulcorants non caloriques, comme l'aspartame, sans aucun souci. Ça n'a absolument aucune toxicité, contrairement à ce qu'on entend partout.
Voilà, Marie-France. Merci
bien.
Beaucoup.
Merci beaucoup.
À très bientôt.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir,
madame.
Ça va être la fin de notre émission déjà. Merci beaucoup, professeur Patrick Touillon, d'avoir été notre invité. Je crois qu'il va falloir qu'on refasse d'autres émissions parce qu'on n'a pas pu prendre tout le monde. Je m'en excuse, mais on est limité à 1 heure. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver bien sûr cette émission dans son intégralité sur notre site internet France Bleu RCFM et la commenter sur nos réseaux sociaux.
France Bleu RCFM.